Bienvenue dans les podcasts du Livre Blanc de Sparklane Modern Selling. Vendeur B2B, êtes-vous prêt? Aujourd'hui, sur la chaîne de podcasts de Sparklane Sales and Marketing Insiders, dans le cadre du Livre Blanc Modern Selling, nous vous proposons l'intégrale de l'interview de Michael Aguilar, fondateur de Vendeur d'élite et auteur à succès dans le domaine de la vente, dont le sujet est importance de l'humain, émotion, désir et automatisation de la vente. Je suis avec Michael Aguilar. Alors, on ne présente plus Michael Aguilar, ça n'est plus la peine. Bonjour Michael, c'est un plaisir de t'avoir ici sur Zencaster pour cette interview. Et nous allons parler de l'ineffable caractère humain de la vente, parce que finalement, malgré l'automatisation croissante des fonctions et de l'informatique qui vient aider ce qu'on appelle dans cet horrible jargon le sales enablement, finalement la vente reste un événement humain. C'est ce que j'ai cru comprendre en lisant ton livre. Et d'ailleurs, dans ce livre, Conclure la vente, dans la deuxième édition qui vient de paraître cette année, tu dis dès le départ que la conclusion de la vente est une affaire tout à fait psychologique et donc obligatoirement irrémédiablement humaine. Et cette conclusion de la vente y est décrite même comme le moment où la peur du vendeur rencontre la peur du client. Je savais pas que les clients avaient peur. Les vendeurs, oui.
Si, ils ont peur, je te confirme. On va en parler.
D'accord. Alors, ce contexte de la vente en B2B qui correspond bien finalement aux exemples qui sont donnés dans notre livre blanc. Dans cette interview, nous allons nous appesantir sur ce caractère humain de la vente en reprenant certains éléments du livre, en les détaillant. Et le premier qui me frappe, c'est que, je vais pas dire que c'est ce qu'on a appris à l'école, mais c'est la vulgate, c'est ce qu'on entend au café du commerce. On nous dit la vente en B2B, c'est quelque chose de rationnel, alors que la vente en B2C, c'est irrationnel.
Et donc, tu veux savoir ce que j'en pense?
Exactement.
Bon, déjà, bonjour Yann et bonjour à tous. Mais d'où vient cette idée complètement loufoque et baroque que la vente en B2B serait rationnelle? Il y a un consensus absolu de l'ensemble des psychologues et des neuroscientifiques. Il n'y a aucune décision qui ne peut être prise sans émotion. Ça n'existe pas. Donc l'émotion, elle est omniprésente. On ne peut pas prendre de décision sans émotion. C'est impossible. Il y a un ouvrage d'ailleurs qui en parle très très bien, d'un des plus grands neuropsychologues neuroscientifiques de notre siècle, qui s'appelle Antonio Damasio. Son livre s'appelle « L'erreur de Descartes », et il démontre que sans émotion, les gens dont le cerveau est altéré et qui ne ressentent plus d'émotion n'arrivent plus à prendre de décision. Ne serait-ce que pour choisir entre leur cravate rouge ou la cravate bleue, ils sont capables de rester 3 heures devant une cravate, parce que sans émotion, il n'y a pas de décision. Alors, dans le domaine du B2B, ça c'est une grosse blague, on va prendre l'émotion la plus importante, la peur. La peur, c'est le principal levier de nos décisions. Et c'est parce que beaucoup, beaucoup de décideurs ont peur de se planter qu'ils vont acheter du SAP, du Salesforce, de l'Oracle, du matériel HP, etc., etc. Et ils achètent pour se rassurer. Pourquoi est-ce qu'ils font appel à McKinsey ou au Boston Consulting Group? Pour se rassurer. Se rassurer, ça veut dire quoi? Ça veut dire retirer ses peurs. On sait par exemple que les investisseurs, quand ils doivent investir, ils sont sur une start-up, ils sont tétanisés par le fameux FOMO, Fear of Missing Out, la peur de passer à côté de l'affaire du siècle, la peur de passer à côté du futur Apple, Facebook. IBM, dans les années 70, avait un slogan qui avait fait sa fortune, on n'a jamais viré quiconque pour avoir acheté IBM. Qu'est-ce que vend IBM, si ce n'est que de la sécurité de l'emploi? Le message, c'était, si t'achètes IBM, eh ben, tu garderas ton emploi s'il y a un problème, tandis que si t'achètes une autre marque qu'IBM et que ça plante, t'es viré, monsieur le directeur informatique. Donc, voilà, n'importe quel acheteur a peur de se planter, dans les choix de son fournisseur, parce qu'il sait très bien que s'il prend un fournisseur qui fait pas l'affaire, eh ben, ça lui sera reproché, il risque d'être viré. Donc, voilà, la peur, elle est omniprésente, il y a d'autres émotions, les regrets. Combien de décisions est-ce qu'on ne prend pas parce qu'on a peur de le regretter? Et là encore, c'est une peur qui est derrière la décision. Donc, les émotions sont omniprésentes. On ne peut pas faire l'économie de ces émotions. D'ailleurs, il faut savoir une chose, c'est qu'un individu qui ne ressent plus d'émotions s'appelle un psychopathe. Alors, je sais bien qu'il en faut chez les décideurs, notamment les acheteurs de la grande distribution, mais bon, cessons la blague. On achète énormément, tout achat, quel qu'il soit, en B2C comme en B2B, est sous-tendu par une émotion.
Et comme il est sous-tendu par des émotions et que c'est pas toujours facile de dire qu'on a choisi sur ces émotions, c'est beaucoup plus, comment dire, valorisant d'expliquer que notre choix était rationnel, eh bien, il y a tout un tas de justifications a posteriori de la décision d'achat et oui. Qu'il est important de comprendre et de décoder.
Mais les acheteurs doivent se féliciter que la décision soit émotionnelle et qu'il y ait des peurs. Parce que si une décision est rationnelle, ils sont tous demain remplaçables, et c'est ce qui va se passer, hein, en grande partie. Certains vont être remplaçables. Ils sont complètement dingues, les acheteurs, de se réfugier derrière la raison, parce que c'est cette même raison qui va faire que demain, ils n'existeront plus. L'IA est 100 fois plus puissante que n'importe quel individu pour prendre des décisions rationnelles. Donc, ils ont intérêt à ce qu'il y ait pas mal d'émotions s'ils veulent avoir encore du boulot.
Oui, et pour savoir comprendre et décoder ces justifications a posteriori, comment on peut faire et en quoi c'est important?
Ah non, mais on peut décoder ces erreurs, ces échecs a posteriori, mais il faut dire une chose, 9 fois sur 10, on se plante. C'est-à-dire qu'on peut toujours essayer d'analyser pourquoi le client n'a pas acheté, mais 9 fois sur 10, les conclusions que vous allez tirer de votre échec ne seront pas les bonnes. Parce que parfois, le client vous fait jouer le lièvre et il vous l'avouera jamais. En réalité, il a pris sa décision d'acheter auprès d'un autre fournisseur, mais il est obligé, ça c'est les marchés publics, de convoquer plusieurs fournisseurs, pas, en fait, d'ailleurs pas seulement dans les marchés publics, hein. Dans les entreprises on va imposer de consulter 2 ou 3 fournisseurs, mais en réalité l'acheteur a déjà décidé. Combien de fois d'ailleurs moi au sein de mon cabinet, puisque je dirige un cabinet qui s'appelle Vendeur d'élite, l'acheteur nous dit bon Michael, je te mets en concurrence mais t'inquiète pas, c'est toi qu'on a choisi, et voilà. Donc parfois le client n'était pas le décideur. Et il ne vous l'avouera jamais, donc vous vous tirerez d'autres conclusions sur le fait que vous n'avez pas signé, mais la réalité, c'est que vous êtes planté décideur. Parfois, le client ne vous aimait pas, tout simplement, et il ne vous l'avouera jamais. Parfois, vous ne lui inspiriez pas confiance. Il vous dira jamais, écoutez, je n'ai pas signé avec vous parce que vous ne m'inspirez pas confiance, et en plus, vous m'êtes antipathique. Parfois, il vous dira que vous étiez trop cher, mais le problème, c'est que vous n'avez pas su lui donner envie. Et c'est très difficile pour un acheteur, un client, de dire, écoutez, sincèrement, vous m'avez pas donné envie, vous m'avez pas fait rêver. Donc, je suis désolé, j'ai pas acheté. Parfois, il vous dira que votre concurrent a été préféré parce qu'il avait une meilleure offre, plus adaptée. Mais en réalité, ce qu'il vous dira pas, c'est que le concurrent lui a offert une place pour aller voir la finale de Roland-Garros dans sa loge. Donc, je peux continuer comme ça pendant une heure à vous donner des explications de vos échecs alors que c'était une explication totalement différente, et on tirera des conclusions totalement erronées de nos échecs. Mais vous savez, c'est exactement comme en amour. Comment est-ce qu'on explique qu'on aime quelqu'un? Alors on va dire oui, j'aime bien, il est blond, enfin il est grand, il est intelligent, il a tel diplôme, c'est pour ça que je l'aime. Mais on sait très bien qu'aujourd'hui le message amoureux, il est pour l'essentiel olfactif, phéromonal, chimique. Il y a tellement de paramètres qui rentrent en ligne de compte, et c'est pareil pour à un moment une déception amoureuse. Donc lorsque quelqu'un nous quitte, il va nous dire « je te quitte parce que je m'ennuie », mais peut-être qu'il a rencontré tout quelqu'un d'autre qui le fait davantage rêver. Il y a 1000 explications, et très souvent, on a la mauvaise quand on traverse un échec.
Cette peur de l'acheteur qui est difficile à percevoir et à comprendre et à expliquer. Est-ce que ça peut aussi être un atout ou un danger pour le commercial ?
Ben, la peur de l'acheteur, ça peut être, c'est un fabuleux atout. Lorsque le client, l'acheteur, est déjà chez ce client, chez ce vendeur. Enfin, j'entends par là, le vendeur, le commercial éleveur, qui a un client, il a tout intérêt à jouer sur les peurs. On connaît très bien la phrase, on sait ce qu'on perd, mais on sait jamais ce qu'on gagne. Donc, l'acheteur, il a peur de quitter son fournisseur habituel parce qu'il sait ce qu'il va quitter, mais il n'est pas sûr de ce qu'il va trouver. Combien de fois a-t-on été abusé par des promesses commerciales qui n'ont pas été tenues ? Donc, c'est la raison pour laquelle la peur, bien souvent, il hésite à quitter son fournisseur alors qu'il a de belles promesses qui lui sont faites par les concurrents. Et de la même manière, quand on est vendeur, on doit jouer sur la peur. On peut activer, agiter les peurs auprès des prospects, la peur justement de passer à côté d'une formidable affaire, d'une merveilleuse économie, d'un service et d'une satisfaction client supérieure. Moi, j'ai l'habitude de dire aux commerciaux que l'aspect le plus important, c'est de savoir s'ils peuvent savoir comment un acheteur est évalué, comment il est incentivé. Ils ont la clé définitive pour entrer chez le client. Parce que si l'acheteur est évalué sur les économies qu'il va faire, eh bien, en tant que vendeur, c'est notre travail de faire comprendre au client les économies qu'il va pouvoir faire sur le court, moyen, long terme, peu importe. À partir du moment où on sait que le client est incentivé sur la satisfaction de ses utilisateurs, à nous de mettre en avant justement cette satisfaction qui sera supérieure. Mais si on a un acheteur qui en face est pas incentivé, comme on en voit parfois dans des grands groupes, dans la fonction publique où ils en ont absolument rien à fiche de changer de fournisseur pour un meilleur fournisseur, là c'est plus difficile de jouer sur les peurs.
Et le commercial aussi, lui, peut avoir peur. Est-ce qu'il peut s'appuyer sur cette peur pour essayer de renverser la tendance et de faire ce qui est une faiblesse, une force, finalement ?
Non, mais le vendeur, lui, il a peur de passer à côté de l'affaire, il a peur de pas signer. Mmh. Il a peur qu'on lui tape sur les doigts de pas avoir conclu l'affaire. Oui. Il a peur de revenir bredouille au bureau alors que sa direction attendait une grosse commande. Et lui, il faut qu'il arrive à la dépasser, cette peur. Et parce qu'on sait tous que lorsque le commercial n'a pas peur, justement, lorsqu'il a fait ses objectifs, c'est là qu'on signe les plus grosses commandes. C'est quand on n'a plus peur de vendre. Pourquoi ? Parce que on sait une chose aujourd'hui, c'est que la peur, elle se transmet au-delà des mots. Il y a un message, ce qu'on appelle les neurones miroirs, qui se mettent en résonance. Et quand on a peur de pas signer, le client le sent. Et il le sent à un niveau totalement inconscient. Et c'est ce qui fait que il sera beaucoup moins enclin à signer avec un vendeur qui a peur qu'avec un vendeur qui est serein. Plus on vend, plus on vend. Moins on a besoin de vendre, plus on vend. Tous les vendeurs ont pu expérimenter ça. C'est quand on a plus besoin d'avoir de clients qui se battent tous. Pourquoi ? Parce qu'ils sentent notre sérénité, ils sentent notre confiance. Et donc le client, lorsqu'il sent qu'il a face à lui un vendeur qui est fort, qui se sent en confiance, il est beaucoup plus enclin à lui acheter. C'est comme ça. On a tous vécu ça, qu'on soit en B2B ou en B2C d'ailleurs, ou au niveau personnel. Nous, les hommes, lorsqu'on allait dans une soirée avec la volonté de séduire, on séduisait rien du tout parce qu'on était en mode prédateur. On avait tellement peur de passer à côté et que les femmes qu'on allait rencontrer, elles sentaient qu'on avait peur. Il n'y a rien qui rend plus séduisant un homme pratiquement que d'avoir une alliance et d'être au bras d'une autre femme. Je sais que c'est trivial et que certains esprits chagrins vont me tomber dessus, mais voilà, il y a un message qui passe par les mots et puis il y a un message qui passe par les sens, par les neurones miroirs, et on n'a pas encore percé tous les mystères de cette communication non verbale, mais c'est la raison pour laquelle un vendeur qui a peur vend moins qu'un vendeur qui est serein.
Alors pour conclure, tu as cité dans ton livre les 20 critères qui peuvent expliquer l'échec. On en a déjà noté quelques-uns, mais 20 critères, ça fait beaucoup.
Oui.
Et si tu devais en choisir 3 à l'intérieur de ces 20
Alors, par un petit peu par provocation, Yann, je vais citer Zig Ziglar. Zig Ziglar a dit un jour, il y a 5 freins à toute vente. Pas de besoin, pas de budget, pas d'urgence, pas d'envie, pas de confiance. Je les reprends. Pas de besoin, pas de budget, pas d'urgence, pas d'envie, pas de confiance. Donc c'est pas 3, c'est 5. Et moi, j'avais fait une vidéo sur YouTube pour dire qu'en réalité, il y en a que 2. Il y en a que 2. Alors, il y en a qui sont secondaires, mais les deux véritables raisons pour lesquelles on ne signe pas, c'est pas d'envie, pas de confiance. Parce que si on prend le premier sujet, pas de besoin. J'adore raconter cette histoire. Moi, j'étais en 2007 devant mon ordinateur lorsque Steve Jobs a présenté son iPhone. J'ai assisté à toute sa keynote. Je ne pensais qu'une seule chose, une fois qu'il a terminé sa keynote, c'est comment je peux me procurer son iPhone. Je n'avais absolument pas besoin. J'étais très content de mon Nokia. Je n'avais pas besoin d'un iPhone. Mais il m'a fait rêver. Il m'a tellement donné envie que j'ai acheté mon iPhone dès que ce fut possible. Dernièrement, j'ai reçu dans mes bureaux un commercial. J'ai des lampes à néon dans mes bureaux qui éclairent très très bien, j'en suis très content. Il est venu me faire une démo m'expliquant que les LED ça éclairait mieux et surtout c'était plus économique financièrement et c'était meilleur pour la planète. Eh ben, j'avais pas de besoin et je me suis équipé en LED. Donc le problème du besoin n'est pas un problème. C'est que le vendeur n'a pas su donner envie. Ensuite, pas de budget. Pas de budget parce qu'on n'a pas donné envie. J'ai un client qui m'a appelé pour me demander une conférence pour ses commerciaux. Lorsque je lui ai demandé mon prix, il m'a dit « Oula, j'avais jamais imaginé que ça pourrait me coûter ça, mais j'ai envie de vous faire venir, j'ai pas les moyens pour ma petite structure, j'ai que 20 commerciaux. » Et c'était en province. Et il m'a dit « Je vais aller voir les copains chefs d'entreprise. » Et il s'est allié avec 3 autres chefs d'entreprise et ils m'ont fait venir. Donc, il n'avait pas de budget au départ et il l'a trouvé parce que j'ai su lui donner envie. Ensuite, le pas d'urgence. Pas d'urgence parce que pas d'envie. Moi, j'ai une voiture qui assure ses fonctions, j'en suis très content. Et puis, j'ai vu dans la marque que j'affectionne un nouveau modèle que j'ai trouvé splendide. Et tout à coup, c'est bizarre. J'ai envie. Il y a comme une urgence pour moi de la changer parce que je la veux. Donc, le vrai sujet, c'est de savoir donner envie. Et ensuite, d'inspirer confiance. Parce que si je te donne envie, mais que je te donne pas confiance, t'achèteras pas. Les deux vrais seuls sujets qui freinent les ventes, c'est pas d'envie et pas de confiance.
Donc, en conclusion, finalement, la vente est un événement essentiellement humain et essentiellement psychologique. Et ça, c'est quelque chose qui ne disparaîtra jamais, probablement.
Ah, bah en fait, si. Oui et non, parce que l'humain, oui, c'est un sujet éminemment humain. Parce que dernièrement, j'avais quelqu'un qui me disait, mais Michael, il y a de plus en plus d'outils digitaux, le digital est en train de remplacer progressivement l'humain, et on vendra plus demain comme on vendait hier. Oui et non. Ça restera deux cerveaux qui communiquent entre eux. Alors entre ces deux cerveaux, il y aura de plus en plus de communication digitale, mais devoir convaincre un acheteur, c'est s'adresser à son cerveau, et c'est un cerveau qui communique à un autre cerveau. Donc ça, c'est depuis la nuit des temps. Maintenant, il y a une autre réalité, c'est que on assiste à une commoditisation de beaucoup d'acteurs, de beaucoup de métiers. Et aujourd'hui, j'achète mon matériel de bureau, mes fournitures de bureau, mon matériel informatique, un certain nombre de d'abonnements à des solutions SaaS, sans rencontrer un humain, sans rencontrer un vendeur. Il y a 1 million de commerciaux qui ont disparu en 6 ans aux USA dans le B2B, 1 million. Et le cabinet Forrester prévoit la disparition d'un autre 1 million de vendeurs à l'horizon 3 ans. Donc, en réalité, tout ce qui se commoditise va être remplacé par le digital. Il y aura plus d'humains. En revanche, pour les solutions un petit peu plus complexes, pour les solutions plus sensibles, oui, là, il y aura encore besoin d'humains. Mais c'est la raison pour laquelle beaucoup de vendeurs essayent de se différencier. On essaye dans les entreprises d'adopter des solutions qui sont pas comparables. Parce que dès qu'on est dans un système qui est totalement comparable, bon ben là on imagine très bien que demain on dira Alexa, trouve-moi une meilleure assurance à responsabilité civile pour notre entreprise. Ou Alexa, je cherche un local de 100 mètres carrés à Paris dans le 13e arrondissement, j'ai un budget de temps, propose-moi les biens qui sont à la vente pour installer mes bureaux. Enfin bref, non, il est indéniable que l'intelligence artificielle, la digitalisation, le marketing automation va remplacer des commerciaux. Mais d'un côté comme de l'autre, il y aura quand même encore de l'humain, mais de moins en moins. En B2C, voilà, aujourd'hui, il n'existe plus de vendeurs en porte-à-porte d'encyclopédies parce que Wikipédia a remplacé les encyclopédies. Eh bien, je pourrais citer une longue liste de vendeurs qui ont été remplacés par des outils digitaux. Donc, oui, l'humain sera toujours présent, mais de moins en moins.
Mais dans la vente complexe, par contre, là...
Oui. Dans la vente complexe, pour l'instant, il n'y a encore rien à craindre. Mais même dans les ventes simples, hein, aujourd'hui, bien entendu, il y a des gens qui achètent leur fourniture de bureau en direct, mais il y en a d'autres qui ont besoin de voir leur commercial qui passe avec un catalogue et faire le point avec eux. Voilà, on est dans l'omnicanalité définitive. Certains ont besoin de passer des coups de téléphone. Prenons le sujet de la banque, qui est du B2C comme du B2B. Voilà, il y en a qui veulent voir absolument leur chargé de clientèle pour parler d'argent, et il y en a qui sont sur, Boursorama et autres Fortunéo, et qui veulent plus voir de chargé de clientèle. Il y a les deux populations.
Il peut y avoir aussi un effet boomerang. Alors, mon exemple personnel, je ne sais pas s'il est représentatif, mais j'achète sur Internet depuis un quart de siècle.
Oui.
Et j'en ai marre.
Oui, voilà.
J'ai envie d'aller dans des magasins. Hier, j'ai acheté une pompe à vélo 22 €, alors que je pouvais l'acheter 20 € en ligne. Voilà. Je l'ai acheté dans un magasin.
Mais c'est ça qui est intéressant. D'abord, le consommateur évolue et on voit combien d'acteurs... des pure players du digital ouvrir des magasins et recruter de véritables homo sapiens. Donc non, c'est plutôt rassurant, mais l'omnicanalité va devenir ça devient la norme, c'est même plus un sujet.
Bien sûr. D'ailleurs, il y a Apple, puisqu'on en parlait, vont, malgré le décollage stratosphérique de la vente en ligne, vont continuer à ouvrir des Apple Store.
Bien sûr. Et les pure players, les meilleurs taux, les free ont ouvert des magasins un peu partout. Hein. Donc c'est plutôt rassurant. Mais d'ailleurs tu sais, moi qui suis conférencier, j'ai des clients là dernièrement qui me disent on veut se voir en live, on ne veut plus de webinaire, on veut retrouver le plaisir de d'être entre nous. Donc je crois que on va arriver aussi à une forme de ras-le-bol du digital.
Ouais.
Dernièrement, là, j'ai un client à qui on a fait une proposition l'an dernier, à qui on a fait des formations en blended learning. Je ne peux pas citer le nom parce que ça les froisserait. Une grosse entreprise du CAC 40. Et cette année, nous ont dit on abandonne toute la partie digitale et on revient en full présentiel. Les gens en ont marre de faire des quiz, de voir des vidéos. Ils ont envie de se renifler, d'être ensemble pour discuter, pour voir un véritable humain leur parler. Et c'est ça qui marche. Donc, moi, c'est très rassurant. Et tu as peut-être raison, Yann, il risque d'y avoir un jour une espèce d'effet boomerang et les gens reviendront. Regarde l'avènement du vinyle. C'est quand même formidable.
Ouais, c'est vrai.
Enfin, le retour du vinyle. Le retour du vinyle, hein, puisque aujourd'hui tu ne peux plus acheter un lecteur de DVD, alors que tu trouves chez Darty des tourne-disques vinyle, mais tu ne trouves plus de lecteur de DVD.
Et ben voilà. Donc,
on revient en arrière sur une technologie pré-digitale. C'est formidable.
Ben, l'avenir, c'est l'humain.
Exactement. Tu vas voir qu'un jour il y aura des écoles qui demanderont aux élèves de reprendre la plume et l'encrier.
Oui, d'ailleurs, ils devraient peut-être, parce que comme ça, ils apprendraient peut-être à écrire le français correctement.
<C'est ça. rire>
Merci beaucoup, Michael.
Je t'en prie, je te remercie beaucoup pour cette invitation. Salut à tous.
Bienvenue dans les podcasts du Livre Blanc de Sparklane Modern Selling. Vendeur B2B, êtes-vous prêt? Merci d'avoir écouté les podcasts de Sales and Marketing Insiders de Sparklane, le site de la vente en B2B.